on aura le temps de prier encore tout à l'heure. Je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Cette semaine, j'avais pas mal de choses, j'avais beaucoup de choses. Je pensais que cette nouvelle semaine allait changer, mais voilà. On peut être dans le tourbillon de plein de choses. Une diversité d'activités, de sujets à penser. Ça aide pas toujours à l'unité. Vous allez voir que ce matin, c'est question de diversité aussi. On continue notre parcours dans Corinthiens. Toutes les églises ont des problèmes, y compris à Wittenheim. Et on le voit en parcourant cette église, cette lettre de 1 Corinthiens. Alors, on n'a pas forcément les mêmes problèmes que cette église, mais on voit dans cette église comment Paul applique l'évangile, la bonne nouvelle, à tous ces problèmes. Comment Christ répond face à toutes ces problématiques, toutes ces réflexions que Paul nous laisse dans 1 Corinthiens. Comment il nous encourage à vivre plus d'amour, plus d'unité, plus d'obéissance aussi envers le Seigneur. On est appelé à être différents. Alors c'est vrai qu'étudier les problèmes, ça pourrait être parfois un peu déprimant, je sais pas pour vous, décourageant, surtout quand on le fait depuis quelques semaines, alors on se dit « ouf, c'est où les bonnes nouvelles ?» Mais on le sait, lorsqu'on étudie par exemple des sujets comme la stratégie militaire, vous rappelez les conquêtes de Napoléon, bien sûr, dans l'histoire des stratégies militaires, on étudie les victoires, mais on étudie aussi les défaites, les échecs, les défauts, pour apprendre des choses. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la conquête spatiale, on étudie aussi les différents échecs lorsqu'on lance des fusées, les lanceurs, pour arriver à plus tard une version plus fiable, pour mieux connaître les paramètres et pour réussir les prochains lancements. Les échecs servent à l'avenir. En médecine aussi, hein, on étudie les virus et les maladies, pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on veut les traiter, parce qu'on veut s'en protéger, parce qu'on veut les guérir. On veut s'en guérir. Donc voilà. Donc on est un peu dans cet état d'esprit-là, en étudiant Corinthiens. Il y a des problèmes, il y a des situations qui sont clairement pas à l'honneur de Dieu, mais c'est pas parce qu'on aime les problèmes, mais parce qu'on veut croire que voilà, il y a des choses aussi dont on veut apprendre et discerner pour nous. On veut apprendre et vivre notre foi ensemble, parce qu'on est dans cette question-là de vivre l'Église ensemble. Alors on est au chapitre 12, on rentre dans une portion qui est pas toujours la plus simple, et je vous propose de prendre avec moi 1 Corinthiens 12. Et je vous invite à suivre dans vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, on a quelques Bibles à l'arrière. Voilà. Mais je voudrais simplement prier pour que le Seigneur nous interpelle aussi par sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement qui est remplie de clarté dans le sens qu'elle présente aussi la réalité de la vie humaine, avec son lot de difficultés, avec son lot d'épreuves, avec son lot d'incompréhension de nos vies, y compris de nos vies d'église. Merci parce que cette lettre de 1 Corinthiens nous est parvenue, même s'il y a plusieurs siècles qui nous séparent. C'est quelque chose que toi tu as désiré, qu'elle soit là pour nous apprendre des choses, pour nous révéler ton cœur, pour nous révéler tes projets pour nous. Seigneur, on veut pas rester attaché à la question des problèmes, Seigneur, mais nous voulons voir comment toi tu y réponds, comment toi tu vois l'Église. Nous te prions aussi ce matin que tu nous aides, Seigneur, à nous attacher à ta parole et à la vivre et à la méditer et à ce qu'elle transforme aussi notre manière de vivre les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alors prenons cette parole, les 11 premiers versets de ce chapitre 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit toutes en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bon, je vais m'arrêter ici, même si on pourrait poursuivre, parce que le problème que Paul est en train d'aborder, il va l'aborder sur plusieurs chapitres, jusqu'au chapitre 14 d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez discerné un peu le problème ou la question que se posent les Corinthiens? En fait, cette portion concerne la pratique de ce qu'on appelle souvent les dons spirituels. On va le voir, hein, dans ces prochaines semaines, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, qui font un ensemble. Les Corinthiens faisaient une fixation sur certains dons comme étant meilleurs. Ceux qui étaient des dons qui sont plus spirituels que les autres, le top du top. Si vous voulez être top du top du chrétien, voilà dans lesquels vous devez taper comme don. Et cela leur causait aussi des problèmes de désordre, comme on vient de le voir depuis plusieurs semaines. Et la solution pour laquelle Paul va dire, comme vous l'avez vu, pour maintenir l'unité, pour maintenir l'ordre dans cette église, c'est de reconnaître la diversité des dons. La diversité des dons. C'est ce que nous voulons célébrer, la diversité des dons. J'ai donné comme titre hein, « Unité dans la diversité ». On n'est pas tous pareils. On a tous des dons différents. Je l'ai réalisé cette semaine en réalisant que il y aurait pas beaucoup de gens qui allaient nous accompagner dans le champ. La diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. On a des dons différents et c'est ce qui nous devrait nous aider en tant que Paul. C'est ce qui devrait nous aider à préserver l'ordre et l'unité dans l'Église. Et je vous propose de regarder comment Paul aborde cette problématique, ces éléments, comment il répond de façon très concrète à ce problème de désordre qui est lié à ces aspirations de dons spirituels. Alors on a besoin de comprendre un peu ce qui se passe à Corinthe. Toujours dans la question de ces rassemblements, hein, depuis un ou deux chapitres, Paul parle du désordre. On avait vu qu'il y avait du désordre entre ce mélange homme-femme. La semaine dernière, on avait vu qu'il y avait du désordre lorsqu'ils mangeaient ensemble, notamment autour du repas du Seigneur, il y avait ce désordre-là. Donc cette question du désordre parcourt ces différents chapitres, 12, 13, 14, il faut l'avoir en tête. Et à la fin du chapitre 14, Paul y dit ceci, verset 40, regardez comment il termine, « Que tout se fasse convenablement et avec ordre ». En fait, ce qui préoccupe Paul, c'est l'ordre lorsqu'on se retrouve, que tout se soit fait avec bienséance et avec ordre. Verset 33 encore de ce chapitre 14, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » On le sait, Dieu est un Dieu d'amour. Donc nous voulons que nos rassemblements, que nos moments ensemble reflètent l'amour. On parle parfois de la justice de Dieu. Donc quand on est ensemble, on voudrait que ça reflète cette justice parfaite de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, comme nous le dit Paul. Nous voulons que nos rassemblements reflètent cet ordre d'ordre. Mais ce n'était pas le cas à Corinthe, et on l'a déjà senti, d'ailleurs depuis les premières lignes. Si on reprend à partir de ce chapitre 12, on aperçoit qu'il y a une certaine ignorance et une manière de vivre les choses. Il est question des dons spirituels. Regardez ce que dit Paul au verset 1. « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » On a un petit indice de ce qui se passe dans cette église. Paul dit littéralement « pour ce qui concerne les spirituels ». Il n'y a pas le mot « don », non, pour ce qui concerne la spiritualité, on pourrait dire. Alors, est-ce qu'il parle de gens spirituels? Est-ce qu'il parle de dons spirituels? On le voit dans la suite, il est question un peu des deux, à la fois des dons, à la fois des personnes, mais il est question de spiritualité. De quoi parle-t-il? Chapitre 14, il dit la même chose. « Pour celui qui se croit spirituel, il fait bien de m'écouter de ce que je suis en train de vous dire. » Les Corinthiens, on le sait, ils étaient quoi? Ils étaient fiers. Fiers. Ils voulaient être des gens spirituels, des gens bien en vue. Ils se croyaient d'ailleurs être des personnes très spirituelles et c'était un problème parce qu'ils hiérarchisaient un certain nombre de choses. Donc le problème que Paul soulève dans cette église, mais qu'est-ce qui constitue la vraie spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce qui est important? Face à la variété de manifestations que les Corinthiens disaient spirituelles, il y a un besoin de discerner de ce qui vient réellement de l'Esprit de Dieu, de ce qui vient de notre vie avec Dieu. D'ailleurs, les divergences entre les églises sont souvent liées à ces textes qu'on va voir. Et le désordre dans cette église, c'est lié à cette question-là de la spiritualité. La question des dons, du spirituel, sème parfois le trouble. Et il y a division et non pas unité dans l'église. Et des chrétiens qui sont sincères et désireux de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. On a des présupposés, on a des opinions sur ces sujets-là. Et je crois que Paul nous encourage aussi à avoir un esprit d'humilité, de respect de ces différentes positions. Unité dans la diversité. Attention, et là je me parle pour moi, à avoir pas toujours des positions étroites, ou trop étroites, que la parole ne laisserait entendre. Déjà au chapitre 4, Paul avait dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parfois on fait de grands discours, et on va au-delà de ce que la parole dit en toute simplicité. Mais Paul va le dire tout au long de ses premières lignes, il le dit, oui, vous avez des dons spirituels, mais vous n'êtes pas autant des personnes spirituelles. Et c'est une grande leçon de cette église, que les dons spirituels, ce que vous êtes en train de vivre avec le Seigneur, n'est pas synonyme toujours de maturité. On peut être un très bon orateur, un très bon prédicateur, mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, si on n'est pas fidèle par exemple à son épouse, la maturité spirituelle n'est pas là. Pensez à un enfant qu'on offre un cadeau à Noël. Il reçoit le meilleur cadeau du monde. Il n'est pas forcément le plus gentil avec ses frères et sœurs. Il n'est pas forcément le plus humble. Il n'est pas celui qui mériterait le plus au monde ce cadeau. Il n'est pas celui qui va forcément partager ce cadeau. Des fois même, c'est l'enfant gâté. Et en fait, cette église de Corinthe, c'est un peu l'église de gâté. Une église qui se croit surdouée. Nous sommes spirituels. Regardez comment je suis. Regardez ce que Dieu m'a donné. Regardez celui-là par rapport à lui. C'était ça, c'était cet esprit de comparaison, de compétition. Alors Paul voulait dire, vous croyez être spirituel? Je vais vous parler de spiritualité. Et je vais vous parler de la manière de pratiquer ces différents dons, qui ne sont pas toujours très spirituels. C'est vrai, cette église avait une abondance de dons, même des dons miraculeux, mais une abondance aussi de problèmes. Parce qu'ils avaient oublié justement peut-être que c'était un don. Un don, c'est un cadeau, dont on ne peut pas se vanter. Rien que ça. Alors d'où venait ce désordre? On a au verset 2, il continue. Vous savez comme lorsque vous étiez étrangers, vous étiez irrésistiblement à entraîner vers les idoles muettes. Paul leur rappelle, rappelez-vous votre ancienne manière de vivre. Ils sortaient tous d'un milieu païen, où il y avait pléthore de dieux différents, de cultes idolâtres, on l'a vu d'ailleurs dans les semaines précédentes, où ils étaient influencés par tout un tas de trucs, et ils avaient tendance à définir ce spirituel sur le principe de ce qu'ils avaient vécu avant, et notamment lié à l'extase, à la transe, à une expérience un peu mystique. D'ailleurs, c'est un peu le cas dans beaucoup de religions, hein. Quand on dit spirituel, c'est ce côté-là un peu mystique, mystérieux, qu'on n'arrive pas trop à définir, où on veut déconnecter l'intelligence, notre rationalité et la pensée du corps. Surtout si on ajoute un peu d'alcool, si on ajoute un peu de sexualité, c'est ce que l'église de Corinthe, hein, ils abusaient du vin, ils abusaient de sexualité, ils avaient probablement encore de la musique un peu bizarre. Je crois que c'était pas très difficile d'arriver dans un état second comme le faisait peut-être aussi les cultes à côté, des autres divinités qu'il y avait dans cette ville de Corinthe, qui était réputée pour sa grande spiritualité qui allait dans tous les sens. Mais c'est pas forcément spirituel. Et d'ailleurs, Paul y dit, les idoles étaient muettes. D'ailleurs, la question que je me suis posée, qu'est-ce qu'on pense quand on pense spiritualité? D'ailleurs, si vous tapez spiritualité dans la barre de recherche de Google, hein, sur Internet, qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'est-ce que c'est quelqu'un de très spirituel? Quelqu'un qui est en train de vivre un moment très spirituel? À quoi vous imaginez? À quoi vous pensez? On pensait quelqu'un de spirituel. On imagine souvent une personne comme ça, les yeux fermés, les mains en l'air, un peu déconnectés de tout. Est-ce que c'est ça la vraie spiritualité? D'ailleurs, vous tapez hein, spiritualité, vous verrez que des gens comme ça, avec des trucs de toutes les couleurs. Est-ce que c'est ça, la vraie spiritualité? La vraie vie avec le Seigneur. Je crois que la vraie spiritualité, c'est peut-être ce que les personnes sont en train de partager tout à l'heure, enfin ce que partagent ceux qui encadrent nos enfants, et on le verra dans ce texte, c'est tous ces services qui sont mis au service du prochain. Parce que le plus spirituel, c'est pas fermer les yeux, lever les mains et chanter. Et on le sait, Paul va dire que l'église de Corinthe avait un don en particulier qui était celui qu'il fallait avoir et qui va revenir beaucoup dans le chapitre 14, on le verra dans les semaines prochaines, mais les Corinthiens, ils avaient une préférence pour ce don qu'on appelle le parler en langue ou la diversité des langues. C'est un peu le brouhaha. Ils avaient cette capacité surnaturelle de s'exprimer dans une autre langue, comme peut-être ce qui s'était passé à la Pentecôte. Mais ce don, Paul leur dit, ça ressemble un peu à votre don de vos voisins. Un peu de miraculeux. Il dit, ça c'est super. Ça c'est le summum de la spiritualité. C'est un peu une transcendance. On se sent partir dans les airs. Et c'est ce que disaient les Corinthiens, ça c'est ce que vous devez vivre. Et dans leur rassemblement, c'était un peu cette concurrence pour celui qui faisait le plus, pour le meilleur, pour celui qui parlait le plus fort. Et cela conduit au désordre, à la cacophonie, et on le verra dans les semaines aussi à venir. Mais c'est le problème que Paul est en train de montrer. Vous croyez spirituel, mais en fait, c'est peut-être rien de spirituel ce que vous êtes en train de vivre. Quand tout le monde veut être le premier, quand tout le monde veut être le meilleur quelque part, avec ces égos-là, ça crée du désordre. C'est ce qu'on avait déjà vu. Vous avez déjà vécu tout ça être, vous avez été tous sur le quai de la gare, quand le train arrive, qu'on veut être tous le premier à franchir la porte, ou dans une station de métro. Ça se fait pas dans l'ordre et la paix. Il y a un peu du désordre. C'est un peu ça. Cet état d'esprit qui anime, ce désordre que vivent les Corinthiens. Ils veulent être tous les premiers, ils veulent vivre des trucs. Et en fait, ça crée du désordre, ça frotte, parce que chacun veut être le premier. Et les Corinthiens venaient à l'église, venaient dans ces rassemblements, dans cet esprit-là, dont Paul est en train de montrer, ben voilà, ça fait désordre. Si je vis l'église, si je vis ces rassemblements avec mes ambitions, avec mes attentes, avec ma personne en premier, je contribue au désordre. Et c'est ce que Paul va dire, attention, c'est pas ça la vraie spiritualité, c'est pas ça la vraie relation avec Dieu. Alors quelle est la vraie mesure de spiritualité qu'il nous donne? Quel est ce socle qu'il va nous donner? Et c'est le premier élément de réponse que Paul apporte à la vraie spiritualité. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc nous confessons Christ par le Saint-Esprit, c'est le socle en fait. La vraie spiritualité, c'est de reconnaître la seigneurie de Christ. Et ça, c'est la preuve que Dieu habite en vous, que le Saint-Esprit est présent, c'est de reconnaître que Jésus est Seigneur. On l'a chanté ce matin, hein ? Donc ça, c'est une des clés pour comprendre ce qui est spirituel, notre manière de vivre l'Église, est-ce que cela montre qu'on place notre confiance en Jésus-Christ ? Quand on veut le servir, la question, est-ce que ma manière de vivre, est-ce que ma manière d'agir, de servir, met Jésus-Christ en premier? Ça fait écho à tout ce qu'on a déjà entendu jusqu'à présent, hein, dans cette lettre, où il plaçait toujours Christ au centre de ce qu'on devrait vivre. Est-ce que ma manière de servir, est-ce que ma manière de vivre mes dons, est-ce que ça attire l'attention sur Christ ou sur moi-même? Si le Saint-Esprit est à l'œuvre, dans nos vies, il nous fait dire Jésus-Christ est Seigneur, par nos paroles et par nos actes. Et c'est déjà une manière de montrer de l'ordre et de la paix. Et à Corinthe, il y avait cette confusion. Et Paul leur dit, face à ces dérapages, ce qui devrait être au top spirituel, c'est de proclamer ce qui est le signe le plus évident que vous êtes spirituel, que vous vous attachez à Dieu et que vous vivez une vie, c'est cette déclaration, c'est une confession de foi en fait. Vous êtes Christ et Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est pas juste une question de manifestation surnaturelle, mais le contenu est clair de ce qu'on proclame, de ce qu'on est en train de vivre. On témoigne et déclare publiquement Jésus-Christ est Seigneur. Tous sont spirituels. Il n'y a pas de vitesse. Jésus-Christ est Seigneur. C'est une confession de foi. Voilà un critère, voilà le critère, le socle pour définir ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas. Est-ce que dans notre spiritualité, notre manière de vivre, on déclare que Christ est Seigneur et Sauveur? Et d'ailleurs, on le voit que apparemment, certains disaient que Jésus-Christ est anathème, il y avait un rejet de Christ. Peut-être qu'ils ils ont même mis Christ de côté. Et Paul leur dit, non, la vraie vie avec le Seigneur, la vraie vie avec Dieu, avec ce qui est spirituel, c'est de déclarer Christ. Et il poursuit, il dit, oui, c'est proclamer Christ, mais c'est aussi reconnaître qu'il y a une diversité de dons. Et c'est le deuxième élément, c'est on dépend d'un même Dieu, mais dans notre diversité. Et ça, c'est les versets 4, 5 et 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous voyez la cohérence? Il dit, le socle, c'est Jésus-Christ. Et puis après, il dit, sur ce socle, il y a une diversité. Et cette diversité, elle est rattachée à quoi? À ce même Seigneur, à ce même Sauveur. Il y a diversité, il répète presque dans ces trois versets, la même chose. Il dit diversité de dons. Là, il y a le mot charisme. Donc voilà qu'on entend charismatique. C'est l'idée de don, de généreux, de grâce. Diversité de service. Là, c'est le mot diaconos. C'est l'aspect pratique des choses. Diversité d'actes. On est un peu dans ce même registre de travaux, de modes d'action. Mais don, service et acte, en fait, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas trop à chercher de différence. Paul est en train de dire, il y a une diversité de choses. Il y a une diversité de la manière dont on doit ça d'exprimer. Mais toutes ces choses-là sont reliées dans la personne de Dieu. C'est Dieu qui en est le donateur. Il y a une unité, un même Dieu. Mais le même esprit, mais le même Seigneur, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous l'avez remarqué, il parle de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de Dieu le Père. Il y a un peu une formulation trinitaire, on pourrait dire. Dans cette manière d'expliquer cette diversité des dons, il dit « Cette diversité des dons vient parce qu'il y a cette diversité même auprès de Dieu. » Paul relie cette diversité des dons à ce Dieu trinitaire, à ce Dieu qui est uni dans déjà toute cette diversité. Et Paul avait fait exactement la même démonstration lorsqu'il a parlé de cette diversité entre l'homme et la femme. Il avait dit « Oui, il y a des choses différentes. » Mais elles prennent source dans ce Dieu qui est uni, mais dans ce Dieu qui a plusieurs facettes. Alors pour mieux comprendre la diversité, on devrait comprendre et chercher aussi à comprendre cette unité qu'il y a auprès de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on voit ici clairement, sans rentrer dans le détail, que Dieu est l'acteur de cette diversité. Verset 6, c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. Centralité de Christ, centralité de Dieu, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. C'est pas toujours facile, parce que quand on pense diversité, on se dit il y a rarement unité derrière. Parce qu'on pense différent, on pourrait dire, c'est rarement l'unité. D'autres disent il faut absolument l'uniformité. Quand on dit uniformité, c'est tout sauf de la diversité. Et Paul dit, la parole de Dieu nous dit, il y a la diversité, qui est comme un reflet de la richesse de notre Dieu. Diversité, et donc unité. Alors ce que nous voulons vivre en tant qu'Église, c'est sûr, on veut être unis, c'est pas évident, on est tous différents, et on le sait. On a tous des préoccupations différentes, et pourtant nous sommes appelés à former un seul corps. Toutes les diversités ne sont pas forcément bonnes, parce que dans le monde autour de nous, on nous parle aussi de diversité, mais sans reconnaître que Dieu est Seigneur et que c'est lui qui a besoin de dire ce qui est divers. La diversité qui est nécessaire, qui est bonne, et cette diversité qui remet en cause l'autorité de Jésus. Mais nous sommes appelés à vivre une unité dans la diversité. faut peut-être l'imaginer un peu comme un orchestre où il y a la diversité de musiciens qui vont jouer d'un instrument différent, mais qui sont conduits par le même chef d'orchestre autour d'une même partition. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'Église, c'est ça. C'est cette diversité, mais il y a le même chef d'orchestre. Il y a le même fondement. Alors, une petite réflexion, c'est comment je réfléchis à cette diversité de dons de personnes. Est-ce que je suis comme Corinthe, où je dis, il y a des super talents, il y a des dons, waouh, que je dois mettre un peu en avant. Ça, c'est spirituel. Il y en a certains que je dois mettre sur le devant de la scène, plus que d'autres. Est-ce qu'il y en a certains que je dois convoiter, que je dois admirer, que je dois jalouser parce que ah lui il a ça et moi je sais pas faire ci? Ou est-ce qu'on les voit comme des cadeaux, des dons reçus par Dieu que nous sommes appelés à réinvestir pour le service de Dieu? Et c'est un peu la suite de ce verset 7. Hein. Je relis le verset 7, c'est le troisième point. Nous recevons chacun, mais pour le bien de tous. Verset 7. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donné pour le bien de tous. La manifestation de l'Esprit, c'est quoi? C'est cette diversité. Et cette diversité, elle est là, pourquoi? Pour le bien de tous. Pour le bien du corps. Chacun a reçu, reçoit un don. Un peu plus loin dans le chapitre, au verset 13, hein, dans le chapitre 12 toujours, nous avons tous bu à un seul Esprit. Mais cela se montre. La manifestation de l'Esprit se manifeste dans cette diversité pour le bien de tous. Certaines traductions ont pour l'utilité commune. Et littéralement, le mot qui est utilisé pour le bien de tous, c'est l'idée de porter ensemble, de rassembler, de contribuer de l'intérêt collectif, de l'intérêt commun, de l'utilité commune. La raison d'être de cette diversité, la raison d'être de ces dons que Dieu donne, c'est cette unité pour le bien de tous. Mes dons que Dieu m'accorde, c'est pour le bien des autres et pas pour me faire mousser comme le pensaient les Corinthiens. Le cadeau du salut est pour chacun, de la foi est pour chacun, mais Dieu nous fait aussi grâce des services spirituels. On a été sauvés pour devenir tous des disciples, tous des serviteurs du roi des rois. Nous sommes appelés à le servir. L'apôtre Pierre lui-même, hein, dans 1 Pierre 4, 10, dira « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Quand on parle spiritualité, on parle de dons reçus par le Seigneur, qui sont appelés non pas pour nous mettre nous en avant, mais pour le bien de tous. Alors, comme Paul l'encourage à l'église de Corinthe, arrêtons de faire des dons, peut-être une réflexion de fierté personnelle, d'admiration. Waouh ! Lui, il sait faire des choses pour le Seigneur. Arrêtons-nous de peut-être de complexer par rapport, en se comparant. Parce que l'idée derrière est l'utilité commune. Il y a la place à chacun. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que nous sommes dans le match ? Est-ce qu'on joue dans l'équipe du Seigneur ? Ou est-ce qu'on est assis dans les gradins comme des spectateurs ? Ésaïe lui-même a dit « J'ai entendu le Seigneur dire « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » C'est ce que Paul est en train de dire. Le Seigneur, il nous a sauvés et nous sommes appelés à être à son service. L'idée est importante. Dieu ne nous sauve pas pour être des spectateurs, mais pour être utile pour le bien des autres. Et trop souvent, je le réalisais en préparant un peu ce culte, nos églises ressemblent justement à un match de foot où on a 22 joueurs qui s'épuisent et qui aurait peut-être besoin de repos, et des dizaines de milliers de spectateurs qui auraient besoin d'exercice. Parfois, on est comme cela. Derrière quelle excuse je me cache pour pas servir le Seigneur, servir l'Église? Pas de don! J'ai pas de don, je sais pas! Ne suis-ce que quand on ne s'en sert pas, je sais pas. Parole de Dieu nous dit quoi? Chacun est utile. Et on le verra la semaine prochaine. Mais dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis appelé de me dire « Seigneur, je veux te servir » Ou est-ce que je suis dans un calcul, dans une réflexion d'exploit? Je veux avoir du bonus avec Dieu, du bonus pour les autres. Est-ce que je veux renforcer mon ego? Ou je veux simplement servir le Seigneur et réaliser que Dieu m'appelle à être au service de mon prochain? Nous recevons chacun pour le bien de tous. Et enfin, Paul termine ce texte en énumérant quelques dons dans les versets 8 à 11. Nous servons avec une diversité, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, une diversité de dons. Dieu distribue des dons à qui il veut et comment il le veut. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette liste de dons ? Alors j'ai pas la prétention ce matin de répondre à tous ces aspects, on n'est pas là dans une étude biblique, mais plusieurs remarques qui pourraient être très intéressantes et pourraient enlever bien des interrogations. Il me semble que la phrase la plus importante dans cette liste de dons, entre ces versets 8 et 11, c'est la phrase « à un autre ». Vous avez vu ça ? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles. Vous voyez, on est en train de dire, on n'a pas tous le même don. Dieu donne ça à un, et il donne ça à un autre, 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 et il donne ça à un autre. On ne peut pas penser que tout le monde a le même don, ou devrait avoir le même don. Dieu l'a voulu ainsi, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est les versets 7 et 11, hein, distribuer à chacun en particulier. Mais tout le monde a reçu quelque chose, pas la même chose, et personne n'a reçu tout. Et personne n'a reçu tout. Et chose intéressante, à chaque fois qu'il va lister, il va le faire à plusieurs fois, il va lister une liste de dons, à chaque fois il va mettre ce parler en langue des Corinthiens à la fin de la liste. En fait, pour contrer l'idée des Corinthiens qui disaient que ça c'est le meilleur des dons. En fait, les Corinthiens étaient en train de dire, pour être spirituel, il faut parler un certain langage. Ça c'est le tip-top. Et en fait, Paul est en train de dire, mais non, vous êtes faux. Dieu distribue comme il veut à chacun. Il n'y a pas la nécessité de dire, ben en fait, vous êtes spirituel si vous avez tel don. La parole de Dieu ne nous le dit pas. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une diversité de dons, que nous ne sommes pas appelés à revendiquer d'avoir nécessairement le même don. Ça, c'est pas un don qui est le trait caractéristique de tous les chrétiens. Les dons spirituels, c'est plus que cela. Alors quand on lit les versets 8 à 11, hein, il y a toute une dimension de dons qui paraissent surnaturels, miraculeuses. Mais en fait, un don, une grâce, c'est miraculeux. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est quelque chose que Dieu donne et déverse sur nous. Parfois, on fait des séparations, ça c'est très spirituel, ça l'est moins. Ça c'est nos conceptions des choses. On parle d'opérer des miracles, de prophétie, de discernement des esprits, d'interprétation des langues. Des manifestations surnaturelles de Dieu, mais en fait c'est surnaturel, Dieu qui vient dans notre vie, déjà tout court. C'est surnaturel de reconnaître qu'en fait Dieu est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que ce qu'il a fait à la croix est vrai, c'est surnaturel. Alors la question est pour nous, est-ce que nous vivons ces choses ? Est-ce que nous sommes appelés à les vivre ? Comment nous les vivons ces choses ? Et j'aime me rappeler que don, c'est cadeau, c'est grâce. Je peux pas les produire. C'est pas mes efforts. Rien ne nous dit dans ce texte que ces dons doivent être constants dans nos vies. Est-ce que c'est par moment dans la vie de l'Église ou pas? J'aime me rappeler aussi que les chrétiens du premier siècle ne disposaient pas de tout ce que nous on dispose. On a le Nouveau Testament. On a la Bible en entier, dans plusieurs traductions. Il n'y avait pas tout l'héritage. On bénéficie en tant que responsable d'église, on bénéficie de toutes les réflexions de ceux qui nous ont précédés depuis des siècles et qui ont réfléchi à comment Dieu... Là, les premières églises n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas de modèle. Ils ne savaient pas comment on devait vivre telle ou telle chose. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre à la place de cette église de Corinthe ? Que serait notre église si on n'avait pas la Bible ? En tout cas, si on n'avait pas le Nouveau Testament ? On n'a pas d'internet, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas d'église modèle juste dans le même village à côté. Il n'y avait pas tellement d'églises autour non plus. Si vous êtes la première génération de chrétiens, c'est pas évident de vivre cette foi nouvelle qui doit se dissocier de ces cultes païens qu'il y avait autour. Mais aujourd'hui, nous, on bénéficie de tout ça, de tout cet héritage qui est riche et qui est beau. Alors si on n'a pas exactement les mêmes problèmes qu'à Corinthe, on peut être reconnaissant que l'œuvre de Dieu continue et que Dieu, dans sa grâce, donne à des moments, à des saisons, des dons différents pour l'édification de son peuple. Alors, on va pas juger les Corinthiens trop vite. Parce que comment vivre sa foi lorsqu'on n'a pas de modèle, lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu, qu'on a beaucoup moins que ce que nous on a aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi que Dieu a donné dans sa grâce beaucoup de dons, autant différents, autant majestueux, autant miraculeux, on pourrait dire. Et je crois aussi que Dieu leur a donné à cette époque peut-être des dons qui parfois étaient beaucoup plus visibles, plus forts. Et on le voit aussi dans d'autres régions, d'autres cultures du monde, quand on vous intéressez un peu à d'autres cultures ou la manière dont Dieu des fois intervient, on se dit « Oh, on aimerait bien vivre aussi ces choses-là ». Mais ces peuples n'ont pas le même privilège que nous avons historique et d'avoir la parole de Dieu complète. On n'est pas toujours dans la même culture, mais qui sommes-nous pour dire « Dieu, on devrait vivre ces dons-là » Dieu donne les dons, pourquoi ? Pour le bien de son peuple et pour l'édification commune. Alors je crois qu'on peut dire, sans être ni cessationniste, ni être trop dans les... de se dire qu'il n'y a plus ces dons-là, et de se dire, qui sommes-nous pour limiter Dieu? Si Dieu le désire que pour le bien de notre Église, il y ait tel ou tel don qui se manifeste, qui sommes-nous pour être plus matures? Je crois qu'on peut dire aussi que ces dons-là sont là pour le bien de l'Église, pour le bien de l'unité, un peu comme une image d'un tuteur qui aide un arbre à grandir. Mais après, on n'a plus besoin de ce tuteur. Parfois, quand on vous conversez avec des musulmans, ben, ils ont eu une révélation spécifique de Christ qui a éclairé. Et après, plus jamais le reste de leur vie, ils ont eu cette révélation miraculeuse. Ils se sont attachés, ils ont croisé d'autres chrétiens qui leur a nourri, Dieu leur a donné la parole, etc. Plus besoin de chercher un moment extraordinaire, mais il y a eu un moment miraculeux, extraordinaire, de révélation ou de guérison, que sais-je. Spurgeon partageait cette image autour de ce texte comme un peu les bateaux remorqueurs qui sortent les gros cargos des ports. Ces petits bateaux ont une puissance, ils sont tout petits, mais ils sont là pour pousser le bateau au large. Mais une fois que le bateau est sorti du port, il est capable de naviguer tout seul. Il peut voyager sous sa propre impulsion. Peut-être de la même manière, certains dons donnés sont là pour lancer, pour démarrer. Et ensuite, Dieu nous donne tout ce dont on a nécessaire pour s'attacher aux Écritures. Qui sommes-nous pour limiter Dieu dans son œuvre? Qui sommes-nous pour dire « ça c'est spirituel, mais ça ne l'est pas » Qui sommes-nous pour dire « ça c'est absolument tel don que tu devrais développer » alors qu'un don c'est un cadeau de Dieu? Et cela dit, on le sait, là il y a 9 dons qui sont listés. Quand vous prenez les autres listes, ben on voit que c'est des exemples. Est-ce que c'était des exemples qui étaient liés à l'église de Corinthe? On le sait pas. Il y a bien d'autres choses, bien d'autres dons qui sont développés. Est-ce qu'il faut faire une hiérarchie? Est-ce qu'il faut faire aucun lieu d'être? Enfin, en tout cas, la parole ne le met pas. Et puis d'ailleurs, quand on fait le comparatif de toutes les listes de dons, vous verrez que ceux qui sortent le plus, c'est le don de l'enseignement. Le don de la prophétie, ça veut dire le don de pouvoir aussi s'exhorter, s'examiner au travers de la parole de Dieu et de s'encourager. Pas forcément tous ces petits dons, parfois qu'on semble, j'aimerais absolument qu'on puisse vivre ce don de guérison, alors qu'ils sont listés parfois une fois ou deux. Il y a une grande diversité dans l'unité, puisque le socle, c'est la seigneurie de Christ. Alors ne limitons pas Dieu, mais pour le bien de l'Église. Il y a un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Et on le verra dans les semaines à venir. Et j'imagine un peu Dieu comme un peintre, avec son pinceau, plusieurs couleurs, et il va en faire une diversité, parce que c'en est lui l'auteur. Ce texte nous rappelle qu'aucun don n'est pas plus spirituel que l'un que l'autre. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, parce que c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est notre confession de foi. Et nous verrons un peu plus précisément la suite la semaine prochaine, mais on a été tous abreuvés du même esprit. Je relis simplement le verset 11. Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant chacun, en particulier comme il veut. Et je crois que ça nous appelle à beaucoup d'humilité et de sagesse dans la manière dont on doit vivre. Et je vais terminer avec je reviens à cet exemple de l'orchestre symphonique. Chaque musicien qui joue du violon, de la batterie, du piano, de la flûte a un rôle unique à jouer dans l'orchestre. Aucun instrument n'est plus important qu'un autre, car c'est la combinaison de tous les instruments qui produit la musique harmonieuse. Si un musicien choisit de ne pas jouer, ou si un autre essaye de jouer à la place de quelqu'un d'autre, l'ensemble de l'orchestre va en souffrir. De même, dans l'Église, chaque croyant est comme un instrument dans l'orchestre de Dieu. Chacun est appelé à remplir son rôle avec foi et humilité, pour que l'Église puisse accomplir sa mission de rendre gloire à Dieu. Alors, suivant le morceau, tous les instruments ne sont pas toujours employés. Quand vous regardez un concert, parfois vous verrez le piccolo qui va pendant tout un morceau pas jouer. C'est le choix de la partition. Ou tous les instruments ne vont pas jouer dans la même proportion. Vous allez voir que les violons vont jouer tout au long du morceau et puis les cuivres vont jouer juste deux notes. C'est la partition et le chef d'orchestre qui en a décidé ainsi. Si chacun, comme il entend, s'en tenir compte de celui qui conduit cet orchestre, ce sera... Si on tient pas compte de ce chef d'orchestre, ce sera la cacophonie. Si chacun joue, dit « Oh, mais moi, je suis un trompettiste, je joue comme j'ai envie », il n'y aura rien d'harmonieux, et je crois que c'est un peu dans cette image-là qu'on doit voir la parole de Dieu, la manière dont on doit voir la vie spirituelle des uns avec les autres. Alors soyons reconnaissants pour les dons que le Seigneur donne et distribue comme il l'entend à chacun d'entre nous, et l'utilisons sous la direction de ce divin chef d'orchestre pour rendre un culte qui soit honorable. Si on joue tous n'importe comment, ben, ça sera la cacophonie, mais si on obéit à celui qui nous a rachetés, je crois que ce sera un parfum, une mélodie, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de bonne odeur et à la gloire de Dieu.